Saison 4, le printemps. Chapitre 43, les trois armées. Le matin du birthday se levait sur le château de Vincennes. Ce serait la journée la plus longue de l'année, comme aimait le rappeler Augénor depuis des semaines. Ce soir, quand sonneraient les 12 coups de leur anniversaire, les cloches salueraient la victoire de la liberté ou le glas de leurs derniers espoirs. Tout semblait calme, pourtant, en ce premier matin de printemps. La journée serait douce, Coriolis le certifiait. Depuis 3 mois, plus jamais les prévisions météorologiques de la feuille de chou ne se trompaient. Le journal décrivait une journée tempérée, sans pluie ni soleil excessif. La forêt de Vincennes, dont l'orée n'était séparée du château que par un long boulevard de béton, bruissait de cris des tourneaux. Les oiseaux migrateurs avaient pris position sur les branches des arbres les plus proches, comme autant de spectateurs perchés, bruyants et peu concernés, mais néanmoins venus par milliers pour assister à la bataille finale. Seuls quelques-uns tournoyaient au-dessus du château fort. Vu du ciel, le spectacle promettait d'être inoubliable. La forteresse était réputée imprenable, entourée de douves, d'un chemin de ronde dominant des remparts hauts de plus de 20 mètres, avec pour unique entrée un pont-levis commandé par de lourdes chaînes. Le donjon du château, derrière les remparts, était le plus haut et le plus ancien d'Europe, d'après les livres d'histoire. Le drapeau à la verte croix était fièrement planté à son sommet. Oui, tous les manuels militaires s'accordaient. Le château de Vincennes, où Prémat et Primitif fidèles à Mordelia étaient retranchés, était une place forte bâtie pour résister à toutes les attaques, même si une armée ennemie campait à ses pieds. Une ou plusieurs. Trois armées avaient pris possession de la cour et des alentours du château. Du ciel ou du sommet du donjon, il était aisé de les distinguer. La première, massée à bonne distance des remparts et du pont-levis relevé, hors de portée de flèches ou d'autres projectiles diaboliques inventés par Mordelia, étincelaient sous le soleil rasant. Dans leurs uniformes rouges coquelicots, sous leurs casques dorés et derrière leurs boucliers argentés, les soldats attendaient, disciplinés. Ils occupaient leur temps à graver sur leurs baux les initiales de leur prénom ou de celui de leur amoureux, à compter les flèches dans leur carquois ou à vérifier la tension de leur arc. Depuis l'annonce de l'évasion d'Augénor et des ministres 3 mois auparavant, les partisans des forces libres étaient revenus en nombre à Versailles. Quelques rares fidèles d'abord, Novak, Moebia, Honora. Avant que le mouvement ne prenne de l'ampleur et que l'ordre nouveau ne puisse plus contrôler l'exode vers l'armée rebelle de libération. La garde civile, jour après jour, s'était étiolée. Les ados raflés avaient été libérés. On retrouvait dans les rues des cagoules et des tuniques sable dorées abandonnées, plus rarement des bourses. Certains se contentaient d'arracher le numéro cousu sur leur uniforme, mais le résultat était identique. Personne ne saurait jamais qui se cachait derrière les atrocités commises, à qui appartenaient les mains qui avaient tant torturé, les yeux qui avaient tant espionné, les esprits qui avaient tant obéi. Autant de crimes qui resteraient impunis, puisque tout le monde voulait oublier. L'heure n'était plus au soupçon, pas même au pardon, puisqu'il n'y avait pas d'accusés, uniquement des combattants fraîchement reconvertis à la liberté. Jeanne d'Arc arpentait les rangs de ses troupes, secondée par Novak le Borgne. Son armée ne se résumait pas d'ailleurs aux soldats de métier. Des singes et des savants avaient eux aussi pris les armes, souvent maladroitement. Soutim essayait de persuader Isalis de renoncer à son chignon si elle voulait enfiler un casque. Florentine expliquait à Philao qu'un beau ne se tenait pas comme un râteau. Braza et Osman révisaient un épais manuel écrit en chinois, prétendant qu'il expliquait tout sur l'art de la guerre. D'autres, au contraire, n'avaient pas cessé de s'entraîner depuis qu'elles avaient pu rejoindre Versailles. Telles Estive, Suzy, Leonarda et les autres Lolligirls prisonnières des rizières, motivées par une terrible colère. Au final, presque tous les ados du château avaient répondu à l'appel, à l'exception de quelques personnalités qui s'étaient affichées trop proches de l'ordre nouveau, Pépin, Olympe, Minerva, Fanfan, les collabos. manquaient aussi quelques garçons et filles. Flabel, la sommelière, Coco, la couturière, Zélig, l'architecte, Nadir, le tisseur du tipi, dont personne n'avait aucune nouvelle. Était-il également resté fidèle à Mordélia, ou avait-il été fait prisonnier, ou pire, assassiné? La deuxième armée campait à gauche de la cour. Malgré les propositions de Jeanne d'Arc, de Novak et de Liu, elle avait refusé de porter des casques, des armures et des boucliers d'acier. Ils combattraient comme ils avaient grandi au tipi, avec des pierres et des bâtons, des grappins et des filets, des vestes de cuir et des gants de peau. Même si l'armée du tipi était sensiblement moins nombreuse que celle du château, son rôle pour entrer dans la forteresse serait déterminant. Et la grande majorité des ados du tipi, plutôt que rester fidèles à Mordélia, avaient préféré rejoindre Akan et se ranger derrière son autorité. Cheyenne, Wayne, Mook, Gulo Gulo, Auriel, Camélian et tant d'autres parmi les plus vaillants. La troisième armée des forces libres, installée sur la droite de la cour, rassemblait des bataillons hétéroclites de primitifs. Empesteurs, empailleurs, ferrailleurs, moissonneurs, tisseurs, cajoleurs, rumineurs, ligériens. On trouvait dans ces rangs des tribus persécutées par les ombrageurs, des esclaves évadés frappés de la verte croix, des commerçants enrichis par les marchés qui avaient tout perdu pendant l'hiver de fer, ou de simples mercenaires attirés par les lunes promises par Vanil. Le commandement avait été confié à Rick, l'empesteur promu qui avait passé tout l'hiver de fer enfermé dans le donjon pour avoir craché sur Orfeo, le chef des ombrageurs, qu'il avait traité de putois albinos. Les trois armées, dans le cliquetis des armes, le murmure des conversations, les éclats de rire nerveux, se préparait. Vanille, l'armée d'un cahier, comptait les hommes, les femmes, les casques, les boucliers, les mètres de cordes et les kilos de boulets. Liu avait pourtant affirmé qu'il était hors de question de se servir des canons, du moins tant qu'il y aurait d'autres solutions. Leonarda, armée d'un crayon, enchaînait les croquis afin qu'on se souvienne pour l'éternité de ce moment historique. Constel, armée d'un stylo, prenait des notes. De cette journée de la liberté, elle tirerait une épopée plus inoubliable encore que l'Iliade ou l'Odyssée. Les cliquetis, murmures et rires soudain se turent. Ogénor allait parler. Le grand cerf se tenait sur une estrade en retrait, positionné pour que tout le monde puisse le voir et l'entendre. Des drapeaux avaient été plantés partout autour de sa petite tente pointue.
« Ce jour !» commença-t-il. « Sera le premier du nouveau monde nouveau. Nous combattrons pour lui aujourd'hui, sous la bannière de la liberté et de la démocratie. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais ce matin, d'où que nous venions, effaçons nos différences et marchons d'un même pas, en mémoire des assassinats commis sous cet odieux ordre nouveau. » En mémoire de ceux et celles qui furent dénoncés, emprisonnés, torturés, assassinés, de ceux et celles qui gelèrent dans les rizières pour oublier à jamais cet hiver de fer, et que refleurisse, dès demain, un été de liberté. »
Une formidable acclamation couvrit les derniers mots d'Ogénor. Le récit de son incroyable évasion avait fait le tour de ce que tous appelaient désormais le nouveau monde nouveau. Ceux qui ne voyaient en Ogénor qu'un intellectuel donnant des leçons à la terre entière sans quitter son fauteuil avaient découvert un véritable héros, rusé et déterminé, au point de se jeter du haut d'un escalier. Dans la foule massée autour de l'estrade, des drapeaux verts du grand cerf s'agitaient de toutes parts, même parmi les rangs de l'armée des primitifs. Jeanne d'Arc monta à son tour sur l'estrade. Il leva la main pour mettre fin au brouhaha.
« mes amis, gardons-nous de toute euphorie. Vous m'avez confié le commandement de nos armées jusqu'à la reddition du donjon, alors soyons précis. Cette forteresse est presque imprenable par la force. Plusieurs centaines de prémats, de primitifs et de moineaux fidèles à Mordélia sont réfugiés derrière ces remparts. Liu et ses savants ont mis au point des canons, mais les murs du donjon sont trop épais pour que les boulets puissent les détruire. Ils causeront des dégâts, mais ne les abattront pas. Il nous faudra sans doute être patients. Et si le donjon résiste à nos premiers assauts, en organiser le siège. La forteresse de Mordelia résistera peut-être à nos boulets, nos baux et nos arcs, mais pas à la faim et la soif.
Jean d'Arc fut applaudi lui aussi, mais les combattants paraissaient déçus de son ton précautionneux. Augénor n'avait-il pas annoncé que le jour serait long, certes, mais que tout serait terminé à minuit, et que, du haut du donjon, les artificiers tireraient le feu d'artifice du birthday. « Assiéger le donjon !» avait proposé le chef des armées. Les affamés, Mordelia avait dû faire des provisions. L'affaire pouvait traîner. Quant à les assoiffés, même les plus ignares des primitifs savaient ce qu'était un puits et que derrière les remparts, la sorcière en avait forcément creusé. Les discussions s'intensifiaient dans les rangs des trois armées. De longs débats entre les impatients, partisans de foncer tête baissée, et les raisonnables, considérant avec méfiance la hauteur et l'épaisseur des murs de la forteresse. Presque personne ne vit la petite silhouette descendre du chemin de ronde, soutenue par des cordes et une poulie, aussitôt relevée. Dès son premier pied posé à terre, la silhouette agita frénétiquement un drapeau blanc et s'avança, seule, au milieu des centaines d'ados massés.
« Pépin !» murmurait-on sur son passage. « C'est Pépin !»
Le moineau marchait d'un pas assuré, mais son visage paraissait terrifié.
« Il vient annoncer la reddition de Mordelia, espérait-on, déçu tout de même que la bataille s'achève avant même d'avoir commencé. »
La foule s'écartait devant lui. Il progressa encore jusqu'à se planter devant la tente d'Augénor.
« J'ai un message !» cria le moineau d'une voix qu'il s'efforça de rendre la plus forte possible. « Sa Majesté Mordelia m'envoie !»
Le silence se fit brusquement. Pas un soldat n'éternua ni ne toussa. On aurait même pu croire que tous s'étaient arrêtés de respirer.
« Elle me charge de vous prévenir que nous détenons toujours dans nos prisons les natifs et natives répondant au nom de Flabel, Corentine, Zélig, Nadir. Si votre armée ne se retire pas avant midi, un premier otage sera exécuté, puis un autre, chaque heure, si vous ne renoncez pas à cet assaut et ne quittez pas la cour du château. »
Augénor avança de trois tours de roue jusqu'au rebord de l'estrade. Pépin se cramponna à son drapeau blanc, plus épouvanté que jamais.
« Tu diras à ta reine, » répondit le grand cerf d'une voix infiniment plus puissante, « que non seulement nous ne nous retirerons pas, mais que nous nous rendrons maîtres de son repère avant midi. Je lui en fais la promesse, alors qu'elle tienne la sienne et épargne ses otages jusqu'à ce que le soleil soit à son zénith. Cours maintenant, retourne te terrer dans ton misérable terrier. » Dans une minute, l'attaque sera lancée.
Pépin roula des yeux effarés, lâcha son drapeau et sprinta à la vitesse d'un lièvre vers les remparts, alors que derrière lui, une immense clameur montait dans les travées des trois armées. Pépin ne s'était pas encore hissé jusqu'au haut du chemin de ronde que la minute s'était écoulée. Jean d'Arc, Hakan et Rick s'étaient accordés sur une stratégie précise. L'armée du tipi, habitué à se hisser sur des cordes ou des filets, devait d'abord prendre d'assaut les remparts pour libérer le pont-levis. Une fois celui-ci baissé, les deux autres armées interviendraient.
« Le tipi avec moi !»
cria Hakan d'une voix forte. Des dizaines d'ados s'élancèrent, cordes enroulées autour de la poitrine, portées par les acclamations assourdissantes des deux autres armées. Ils jetèrent avec une précision diabolique leurs grappins de tous les côtés du chemin de ronde et entamèrent, avec une agilité stupéfiante, l'ascension des murs du château, accrochant poutres et filets derrière eux pour que les moins acrobates des assaillants puissent également grimper. Les ados du tipi retrouvaient les sensations de leurs jeunes années. quand se balancer entre les poutres de la tour Eiffel constituait pour eux un jeu simple et naturel. Les plus habiles, Wayne, Cheyenne, Mook et bien sûr Akan, atteignaient déjà la moitié supérieure des remparts quand les prémats apparurent dans l'ouverture des meurtrières du chemin de ronde. Tous tenaient à la main d'étranges boules vertes de la taille d'un ballon qu'ils lancèrent dans le même élan, certaines sur les ados accrochés aux remparts, d'autres en direction des armées. Les boules vertes, dès qu'elles touchaient terre, provoquaient une violente explosion dont les flammes continuaient de s'élever longtemps après le choc.
« Des feux grégeois !»
hurla Akan.
« Reculez ! Reculez !»
La veste de Cheyenne était en feu. Elle dut lâcher son grappin, tomba de 6 mètres, alors que Moebia et Galien se précipitaient pour la couvrir d'une fourrure. Les échelles sur lesquelles Noam et Auriel étaient juchés flambaient. Ils sautèrent eux aussi, sans réfléchir, tombant dans les bras des soldats 5 mètres plus bas.
« Retraite ! Retraite !»
continuait d'ordonner Akan. Une nouvelle boule verte le rasa et alla exploser près d'un groupe de primitifs venus leur porter secours. Les abords du château étaient en feu. Akan vit Mook, Camélian, Wayne et Suzy se replier, visages noircis, cheveux fumants et mains brûlées. Dès qu'ils atteignaient le sol, des bras amis les agrippaient pour les éloigner des bombes incendiaires qui continuaient de pleuvoir. Akan jeta un regard vers le haut des remparts. Il était grimpé à plus de 10 mètres, bien plus haut que les autres assaillants. Crobleu sortit soudain de derrière la meurtrière la plus proche, avec un sourire mauvais, tenant 3 boules dans sa large main, et le visa. Les projectiles mortels fendirent l'air. À moins de 5 mètres de lui, le préma ne pouvait pas le rater. Akan pouvait esquiver une bombe, mais pas les 3. Dans une seconde, le géant serait transformé en torche enflammée, puis en nuage de fumée. À moins de sauter. 10 mètres. Une folie. La certitude de s'écraser sur le gravier. Il ferma les yeux et lâcha son grappin. Augénor lui prêterait son fauteuil roulant, s'il survivait. Il eut une pensée pour Sabi, seulement elle. Il n'eut le temps pour rien d'autre, avant de rebondir plusieurs fois.
« On recule ! Vite !»
cria Jean d'Arc, sans lâcher la toile dans laquelle Akan venait d'atterrir. Novak, Helios et Gulo-Gulo, qui tenaient fermement les autres extrémités de la bâche, s'éloignèrent des remparts, dans une manœuvre parfaitement coordonnée.
« Wow !» fit Akan. « Merci !»«
Vieille technique de pompier !» assura Jean d'Arc. Vanille a recensé 7 blessés, mais aucun n'est gravement brûlé. Elle certifie qu'ils ont tiré 17 boules vertes.
Ils posèrent la bâche. Akan ressemblait à un lion sur une piste de cirque. Il regarda le soleil, haut dans le ciel. Midi approchait. Dans quelques minutes, le premier otage serait exécuté.
Tant qu'ils disposeront du feu grégeois, analysa Jean d'Arc, il nous sera impossible d'approcher.